Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Philanthrope, humaniste, architecte de formation et aujourd'hui célèbre photojournaliste, avec nous Reza. Devenu photographe pour le National Geographic, Reza parcourt le monde depuis 30 ans. Témoin des guerres et des instants de paix, Reza est bien plus qu'un photographe. C'est un homme engagé qui se définit comme un conteur avec ses clichés. Reza est un homme passionnant et passionné qui n'a jamais arrêté de rêver. Micro à la main, allons le rencontrer.
Le son pour moi c'est 50% de l'image. Enfin, donc j'utilise pas mal le son. Depuis une quinzaine d'années je fais des petits courts-métrages de 1 minute, 2 minutes. Avant je faisais avec les appareils vidéo, après j'utilise beaucoup mes photographies et avec les narrations. Je fais aussi beaucoup de courts films utilisant mes photos et narrations. Comme ça, c'est ma voix qui parle sur les photographies. Enfin.
Et c'est vrai que le son a son importance. Je me rappelle quand j'ai commencé la radio, un enfant me disait « Moi, je préfère la radio que la télévision parce que les images sont plus belles.
» Oui, c'est parce que c'est la réalité, c'est que la différence de radio et la télévision, pour moi, c'est que dans la radio, notre imagination, il crée l'image. Et donc, pour ces gamins, il disait qu'il était plus belle, c'est qu'il avait meilleure imagination que tous les producteurs de télé. Qu'il arrivait à imaginer des images, certainement en écoutant la radio, qui était mieux que ce que vous voyez en télé.
On va rentrer dans le sujet de l'image. Donc là, on est dans l'émission Regarde ailleurs. On est à Riedisheim, au Salon de la photo. Je suis avec Reza. Mais avant de parler vraiment de Reza aujourd'hui, j'ai envie de savoir de Reza enfant. Comment est-ce qu'on en devient à devenir photographe? Quel est votre parcours? Comment tout ça a commencé?
Tout ça, en réalité, c'est toute une vie qui vous emmène petit à petit à devenir ce que vous faites. Mais il y a des moments importants. Et un des moments importants pour moi, c'était un jour dans l'école, j'avais vu un enfant, un mendiant presque, pieds nus, je devais avoir 8-9 ans, et qu'il voulait rentrer dans l'école, et que les autres écoliers, les étudiants, enfin les petits élèves, ils ne voulaient pas laisser rentrer, parce qu'il était pieds nus, et que moi j'étais tellement touché par voir dans l'état qu'il était, et j'avais envie de le faire rentrer, mais les autres élèves, non seulement ils le poussaient dehors, mais comme j'étais en train de le protéger, ils me poussaient dehors aussi. Et ça m'avait tellement bouleversé que je me disais, je vais raconter ça au prof et au directeur de l'école. Et quand j'étais allé le raconter, ça n'a pas fait beaucoup d'impression comme je croyais. Pour moi, c'était une énorme, énorme histoire. Un enfant mendiant, pieds nus, qui veut rentrer. En plus, il pleurait, il disait « Je veux juste voir à quoi ça ressemble une école. »
On est où là? Dans quel contexte?
On est dans la ville de Tabriz, en Iran, en 1960, par là, presque 61. Je sais pas. Et donc...
Donc là, première rencontre avec l'exclusion, quelque part. On peut mettre un mot derrière ça.
Ça peut être l'exclusion, ça peut être injustice sociale, ça peut être quelque chose fort, enfin. Donc j'essaie d'expliquer et personne ne prend les sérieux. Donc comme si c'était normal. Et je me suis dit, mais vous n'avez pas vu, c'était un petit enfant avec les... Ah bon, ok, bon bah ok. Ça n'allait pas. Et après quelques temps après, je voyais d'autres gens dans la ville des gens qui vivaient dans les conditions un peu difficiles ou même dans la rue, et que ça me bouleversait. Enfant, j'étais très bouleversé par ça.
Par la différence et par la pauvreté ou la misère.
Absolument. Or, on n'était pas d'une famille très riche, on était une famille normale. Donc, j'ai essayé d'expliquer aux gens, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ces gens, ils n'ont pas les mêmes vêtements que nous, les autres, et tout? Et quand j'ai vu que je n'arrive pas à expliquer, je me suis dit, peut-être, je n'arrive pas bien à parler. Il faut que je dessine, bon, pour montrer aux autres. Peut-être qu'ils ne voient pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit, je vais dessiner. Et pendant 2 ans, j'ai noirci des centaines de pages en essayant de montrer les pieds nus de petits mendiants, et personne ne voyait les pieds nus dans le dessin que je faisais. quand je montrais, regardez cet enfant, comment il est, il tournait la page, il me disait, mais quel enfant.
Alors, donc le dessin, c'était pas ça.
C'était pas ça, et ouais, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Et après, un jour, je sais pas, 13, 14 ans, 12 ans, mon père avait une petite caméra box qui sortait seulement pour aller quand on allait un petit pique-nique en été pour les vacances et faire quelques photos. Je n'étais pas très attiré par ça. Et je ne sais pas à quelles conditions, d'un seul coup, j'ai pris ça et je regardais dans le viseur et je commençais à tourner, et j'ai vu que chaque fois que je tournais, il faisait un cadre de ce qui était devant moi.
Ouais. Comme un appareil photo.
Comme un appareil photo, c'était quand même un grand découvert pour un enfant. Et je commence à courir derrière mon père. Père, est-ce que tout ce qu'on voit ici, si j'appuie sur le bouton, il enregistre? Et Ryan a dit, bah oui, évidemment, c'est comme ça qu'un appareil photo. J'ai dit, tu es sûr là, tu peux me jurer qu'il va faire ça? Il dit, oui, je te jure que quand tu appuies et que tu regardes dedans, tu vas faire la photo.
C'est une belle histoire, parce que vous êtes venu à la photographie par le jeu, finalement, à travers les yeux de l'enfant, amusé par cet objet comme un jouet.
C'est pas, en réalité, vous savez, moi je dis, même si, comme vous dites, je suis connu en tant que photographe, mais je ne me considère pas photographe, je suis un contor. Comme en Orient, ça existait toujours dans l'ancien temps, les contors. Sauf que je choisis l'outil qui est un outil universel. Et qui n'est pas un... Je suis un contor persan qui compte pour le monde entier, qui parle la langue du monde entier. C'est l'image, et c'est plutôt ça. Ouais. Et donc j'utilise la photographie comme un outil. Et depuis, je n'ai pas cessé. Je fais la même chose aujourd'hui. Je vais dans le monde entier, je montre l'injustice, je montre la misère, je montre la famine, je montre la pauvreté, je montre je montre de doigt les dictatures. Vous voyez, je fais la même chose depuis 40-50 ans que je fais.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'est pas par l'amour, si vous voulez, de l'image ou l'amour de photographie comme ça. C'est un outil pour moi. C'est plutôt beaucoup plus soft. J'essaie d'ouvrir les yeux des gens, de ceux qui ne voient pas. Je suis aussi connu comme photographe de guerre. J'ai passé des années dans les zones de guerre. Mais aller voir, comparer mes photos avec les photos des autres photographes de guerre connus, oui, à 90%, ils vont photographier les cadavres. Et moi, non. Ce n'est pas les morts, ce n'est pas les blessés. Moi, je connais... Il y a des photographes qui vont se mettre dans les hôpitaux d'urgence pendant la guerre, et que juste photographier les blessés, c'est sûr qu'on va faire des photos incroyables, très fortes. Mais moi, je vais chercher dans les petites ruelles la petite fille qui est égarée et qui a perdu sa maison et qu'elle pleure. Et que, et c'est ça qui est important pour moi.
Je vais en revenir à Reza, donc enfant. On est encore en Iran. Vous découvrez la photographie. Ce petit boîtier qui permet de capter ce qu'on voit dans ce cadre. Et à partir de là, comment est-ce que on arrive à peut-être vendre sa première photo ou à arriver à en vivre finalement, arriver à voyager grâce à cet outil et arriver à partager, à montrer ce regard différent, ce regard d'ailleurs.
J'ai continué constamment. C'est devenu ma passion vraiment où j'ai appris tout seul. Mais vraiment, je dis tout seul. Hein. J'ai jamais eu un prof, j'ai jamais eu personne pour me guider. Il n'y avait pas de journaux photos, il n'y avait pas de magazines photos, il n'y avait pas de livres de photos. Donc, j'allais dans le studio des photographes dans la rue en leur posant la question de comment on fait, ce film, comment ça devient papier, ou est-ce que je ne savais pas comment un film peut devenir papier, donc il fallait que j'apprenne tout ça.
Là, on est en Iran toujours.
On est toujours en Iran, j'ai 14, 15, 16 ans, ça continue. Et à 16 ans, c'est un autre moment fort, je décide de faire un journal pour le lycée. L'idée m'était venue à partir d'une photo que j'avais fait dans un marché et j'avais aussi touché par une histoire que j'avais photographiée. Et deux jours après, je me suis fait arrêter par la police secrète. Évidemment, je ne savais pas qu'on est dans un pays dictateur, que ça ne se fait pas.
C'était encore sous le régime du Shah ?
Le régime du Shah, oui, j'avais 16 ans encore. Et donc, je me suis fait arrêter, tabassé, fort, à 16 ans. Vous venez de faire un journal, vous croyez que vous avez fait une merveille du monde. Et vous, d'un seul coup, tout le monde vous tombe dessus et vous frappe et vous déchire vos journaux. Donc, sérieux, utiliser la photographie comme un moyen de dénonciation, comme vous l'avez dit, en allant photographier les gens, les quartiers très pauvres en Iran, et imprimer, et le soir aller coller sur les murs.
Donc, bien sûr, sans autorisation. C'était vraiment pour montrer au grand public une des réalités que votre œil captait.
Ah, c'est 100% sans autorisation. Mais imaginez, nous sommes dans la fin des années 60, dans un pays où, évidemment, ce n'est pas l'époque d'Internet, c'est pas, vous voyez, on est à la fin des années 60. Il n'y a rien qui rentre dans le pays. Aucune image. Tous les journaux qui doivent rentrer sont censurés, les journaux étrangers. La seule télévision, il émet tout le temps les images du roi et tous les biens qu'il fait. Et d'un seul coup, les gens, ils arrivaient, ils voyaient des photos sur les murs de l'université, autour de l'université Téhéran, avec un petit texte qui écrit « Regardez dans ce village, les gens, ils ont faim et le roi, il fait ça. » Ils invitent. C'était un impensable, c'était inimaginable.
Donc là, il y a vraiment un côté militant et dénonciateur.
Complètement, complètement. Et c'était un jeu, peut-être, mais assez fort, parce que le matin, j'allais voir des fois, je voyais les gens, comment ils sont réunis autour de photos, ils regardent, ils sont émus, ils regardent et tout. Et j'étais content. Après, la police, ils arrivaient, ils arrachaient la photo, ils frappaient les gens qui regardaient, il demandait à tout le monde de partir. Et ça a duré quelques années jusqu'à ce qu'à un moment, j'avais 22 ans. Et toujours pas dans l'idée de devenir photographe. Je ne savais même pas que ça existait un métier de photojournaliste. J'étais étudiant. Un jour, je me suis fait arrêter. Et j'étais emmené dans la prison du Shah, de Savak, enfin. Dans une petite cellule de 1 mètre sur 2 mètres, je ne sais pas combien. J'ai passé 3 ans en prison à cause de les dénonciations que je faisais. Donc, de 22 ans à 25 ans, je passe en prison, torturé les premières 5 mois, jour et nuit, parce que pour eux, c'était impensable qu'un garçon à 22 ans il a pu faire tout ça. Il voulait savoir quelle est l'équipe et le groupe ou le pays étranger qui est derrière moi, qui veut déstabiliser le royaume. Et je disais, mais je suis le seul. Non, 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 c'est pas possible. Donc il me frappait, il me torturait tout le temps pour voir s'il y avait d'autres gens. Et ça a duré 3 ans, toutes ces histoires. Arrive la révolution, et pendant la révolution, je sens le changement qui est en train d'arriver en Iran. J'étais un jour dans le cabinet d'architecture dans lequel je travaillais avec quelques amis. Je vois les manifestants dans la rue, chose impensable au temps du Shah. Que les gens ils viennent dans la rue, ils manifestent, c'était inimaginable. Et ensuite, ce que je voyais de fenêtre, c'était vraiment premier étage, la rue, les étudiants qui manifestent, l'armée il vient de deux côtés, ils bloquent, ils commencent à tirer sur les étudiants. Et tout le monde tombe, évidemment, on est tous choqués ce qu'on voit. Mais moi, ce que j'ai vu qui m'a complètement bouleversé, c'était un étudiant qui avait un appareil photo et qui faisait des photos en courant dans ce... En essayant de se
protéger,
mais il faisait des photos. Et je l'ai suivi, et c'est là que je dis, mais c'est ça la photo. Aujourd'hui, en Iran, c'est ça la photo. Et c'est comme ça que, dans la rue, j'ai commencé à faire des photos. J'ai rencontré des journalistes, des photographes étrangers qui venaient. Je voyais comment ils travaillent, ils me voyaient. Comme je parlais français, anglais... Je connaissais la situation parce que j'étais en prison. J'avais fait 3 ans de prison politique, donc je savais exactement ce qui s'est passé dans la rue. Or, les journalistes, ils arrivaient, ils ne savaient presque rien du tout. Or, moi, d'un seul coup, j'allais dire à tout le monde, venez avec moi, je vous emmène, si vous voulez voir. C'était là où il y avait les manifs. Et c'est comme ça que j'ai créé une petite... réseau avec tous ces journalistes, mais toujours en me disant que à la fin de toutes ces histoires, on ne savait pas ce qui allait se passer, je vais retourner faire mon architecture. Un jour, parmi ces photographes, ces journalistes, ils m'ont demandé, mais tu as un appareil photo, tu fais des photos, on ne voit jamais tes photos. Bon, vous savez, moi, j'ai un architecte, je fais des photos pour moi, c'est rien du tout. Finalement, par hasard ou quelque chose, j'ai montré quelques photos et d'un seul coup, j'ai vu que leur réaction était étrange. C'est qu'ils se regardaient vers moi, ils disaient, mais qui est le photographe? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à parler. Après, finalement, je me suis trouvé... à l'agence SIPA, Newsweek, Time, Life, National Geographic, c'était pas prévu.
Comme quoi, une vie finalement, c'est des rencontres qui vont nous emmener sur un chemin, des idées aussi, une foi en quelque chose qui va nous pousser et qui va nous amener dans un endroit improbable, mais on y arrive.
C'est ce que j'ai dit toujours, c'est qu'on peut faire des plans, il faut faire des plans dans la vie. Mais il faut toujours laisser la porte à toutes sortes de changements. D'autre chose, c'est que il faut toujours avoir du rêve ou des rêves. Et plus ces rêves sont plus ces rêves sont fous, mieux c'est encore. Et même faites des rêves que des gens ils diraient c'est impossible. Et ben justement parce que c'est des rêves impossibles qu'on va y arriver.
C'est ça, croire en l'impossible et oser affronter ses peurs.
Bah, c'est ce que je fais depuis le premier jour que j'ai vu ce petit gamin dans l'école. C'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai essayé de montrer au monde ce genre d'injustice. Et maintenant, j'ai fait la même chose. J'expose au lieu d'aller la nuit tout seul coller les photos. Maintenant, il y a toute l'équipe de toutes les villes du monde qui colle mes photos sur le mur du monde. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est comment définir aujourd'hui la profession du photographe journaliste?
C'est un des plus anciens métiers du monde en réalité. Parce que la façon où je crois, mettre en image notre vie quotidienne. C'est ça le travail de photojournaliste en réalité. Et ce concept, ce métier, ça existe depuis les premières... peinture dans les grottes rupestres, c'était des hommes et des femmes et qui utilisaient les outils de l'époque pour montrer leur vie quotidienne. En Égypte, c'est la même chose. Chez les pharaons, dans les rochers, on trouve, je sais pas, le Gustave Doré, il faisait l'illustration. Et après, il y a 150 ans, ils ont inventé un appareil qui s'appelait la photographie. Donc, on utilise cet outil pour raconter le quotidien. Et peut-être dans 20 ans, Dieu sait quel autre outil ils vont inventer. Mais il va y avoir toujours cette mentalité qui va exister des gens qui sont passionnés de mettre en image leur vie ou la vie quotidienne autour d'eux. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Et donc, toutes les histoires que... le photojournalisme est fini, que le journalisme et les photographies est mort, et tout ça, c'est de blabla des ignorants. Ils ne se rendent pas compte de quoi ils parlent. C'est que, au contraire, on est arrivé à une époque, aujourd'hui, où nous avons des centaines de millions de pages tous les jours sur Internet qui ne cherchent que des photos. Nous, les créateurs d'images, on n'a jamais eu autant de... endroit du monde de mettre nos photos. C'est pas les pages de livres, des pages de journaux, les expos. Tout ça, c'est tellement limité quand vous réfléchissez à tout ce que la possibilité que on a. Donc au contraire, moi je crois que on est dans un début d'une nouvelle ère de photographie.
Reza, aujourd'hui, le rêve un peu fou, ce serait quoi?
J'en ai plein. Mais le vrai rêve pour moi, c'est d'une part arriver à un monde en paix. parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de dégâts de guerre. Et c'est, pour moi, les guerres, c'est le dernier reste des hommes de caverne. Cette mentalité des hommes de caverne. Et l'évolution de l'humanité, certainement, va nous emmener à dépasser de cette mentalité de caverniard. Je sais pas comment, si on peut dire caverniard. Mais ça, c'est parce que je dis, ça c'est une de mes rêves. Et d'autres, c'est de trouver des moyens où on puisse donner éducation à tous les enfants du monde. Ça aussi, c'est important. Parce que la clé de même la paix et l'avenir, c'est l'éducation des enfants. Et c'est là où j'arrive pas à comprendre comment beaucoup de pays, y compris la France, ils mettent beaucoup plus de budget et moyens pour les armements que pour l'éducation des enfants.
Poser la question comme un enfant, papa Reza, comment faire pour vivre en paix?
Avant tout, il faut avoir paix en soi-même. Et il faut avoir paix. Il faut arriver à cette paix intérieure où avoir confiance en soi-même. Ça, c'est très important. Avoir confiance en soi-même et de se dire que j'ai des rêves, je vais y arriver. Et pour cela, je vais chercher les moyens pour y arriver. Et c'est tellement simple. Et une autre façon, c'est de jamais, devant un obstacle, de laisser les bras. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de gens, quand ils arrivent devant un obstacle, comme s'ils sont trouvés devant un mur. Et ils baissent les bras, ils disent que je suis devant un mur. Et moi je dis, mais non, c'est pas un mur, c'est une marche. Montez dessus, et vous allez voir. Et si on arrive à avoir cette mentalité de voir dans un obstacle une marche pour laquelle il faut monter et pas un mur, et bien là on se rapproche de ses rêves.
C'est ça.
La pensée de l'homme, il va beaucoup plus loin que les lois... l'univers, enfin, vous voyez, on est là, mais notre imagination, l'imagination de l'homme, il peut aller beaucoup plus loin que toutes les lumières, que toutes les fusées du monde. C'est ça qui est extraordinaire. Vous pouvez vous asseoir quelque part, et dans votre pensée, vous voyagez, vous écrivez, vous créez des choses. C'est ça, c'est incroyable la force qui existe en l'homme.
Ça me fait penser à cette phrase d'un sadhu qui me disait « Limitation is the creation of the mind ». Se sentir limité est une création de son esprit.
Absolument, il n'y a pas de limitation. On ne sait pas, on ne sait pas de quoi on est capable. Juste réfléchir, savoir de quoi on est capable, ça vous donne presque le vertige de savoir jusqu'à où on peut aller.
Merci beaucoup, Reza.
Merci beaucoup.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.